This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. I am not a
believer in climate change. C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit là.
Aujourd'hui dans Activiste, nous recevons une autrice, chercheuse, militante abolitionniste pénale. Vous la connaissez peut-être pour son livre « Pour elles toutes, femmes contre la prison » paru aux éditions Luxe en 2019. En France, elle est en effet l'une des voix de ce qu'on appelle donc l'abolitionnisme pénal. Je ne vais pas me risquer, moi, Esther, à vous donner une définition tout de suite, alors qu'on a une experte en la matière à notre micro. Je vais plutôt lui laisser le soin de le faire, elle qui sort ces jours-ci un nouveau livre, « Crime et peine, penser l'abolitionnisme pénal », dans lequel sont traduits trois textes d'auteurs et d'autrices qui ont participé à la fondation de cette pensée et qu'elle contextualise. Les auteurs et autrices donc Nils Christie, Luke Hulsman et Russ Morris. Bonjour Gwenolore Cordeau.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Alors, pour commencer et entrer tout de suite dans le vif du sujet, en quelques mots, comment est-ce que vous définiriez l'abolitionnisme pénal, puisque c'est de ça dont on va parler?
Alors, l'expression d'abolitionnisme pénal, il commence à être revendiqué par certaines personnes, certains mouvements sociaux, certains auteurs, théoriciens, théoriciennes. À partir des années 70 et dans plusieurs pays occidentaux, essentiellement en Europe, en Amérique du Nord. Et en fait, ce qu'on peut dire à quelques décennies ensuite, c'est que c'est une étiquette qui a aussi évolué à travers le temps et qu'il y a à la fois des personnes et des mouvements qui se revendiquent de l'abolitionnisme pénal et puis aussi des mouvements qui, sans forcément utiliser cette étiquette de l'abolitionnisme pénal, s'inscrivent d'une façon générale dans un mouvement pour l'abolition du système pénal. Mais alors, ce qui regroupe à la fois ces pensées, ces luttes, ces mouvements sociaux, c'est un projet qui est celui d'abolir le système pénal. Alors ensuite, il y a certaines déclinaisons comme des luttes plus spécifiques pour l'abolition de la prison, de l'abolition de la police. Il y a des formes de recherche d'autonomie du système pénal. Et donc, on peut dire qu'il existe des abolitionnismes avec différentes manières de penser la stratégie abolitionniste et puis des manières différentes de lutter avec ce qui caractérise l'abolitionnisme pénal, si on essaie d'en avoir une vision assez englobante, c'est un va-et-vient constant entre le champ politique, la manière dont les luttes se pensent, se créent et les stratégies se redéfinissent avec le temps et avec des expressions différentes, d'ailleurs selon les pays. Et puis, de l'autre côté, des réflexions, des pensées. Et donc, ce va-et-vient entre le champ des idées, le champ des luttes, qui, à travers le temps et donc au cours de ces 5 dernières décennies, a permis de redéfinir la façon dont les abolitionnistes eux-mêmes et elles-mêmes se pensent et pensent leur lutte.
Et vous, alors, comment est-ce que vous avez découvert ce courant de pensée ?
J'ai découvert l'abolitionnisme pénal à partir de mon expérience d'avoir des proches incarcérés. Et je dois dire que c'est sans doute une expérience assez commune, c'est-à-dire que ça a commencé par une révolte immense contre le système pénal, une conviction que ce système devait être aboli. J'avais l'impression d'avoir devant moi quelque chose de totalement absurde et de totalement néfaste pour les êtres humains, sans savoir que d'autres personnes avaient pensé cela déjà, qu'il y avait des luttes sur le terrain politique. Et donc, j'ai découvert ces pensées et ces luttes à partir de cette première expérience. Alors, j'avais déjà une certaine conscience politique, mais évidemment qui n'était pas ouverte à la question de la prison et de la répression d'une façon générale. Donc, je l'ai découvert en France, dans un moment donné, autour de l'an 2000, où les luttes abolitionnistes en France étaient pour l'essentiel des luttes contre la prison. Et par la suite, mon horizon politique s'est élargi, notamment à travers la découverte d'auteurs et de luttes nord-américaines. Et donc aussi par mon intérêt pour l'histoire de la réflexion critique sur le système pénal, je me suis moi-même de plus en plus définie comme abolitionniste du système pénal que simplement abolitionniste de la prison, ce qui était, ma première réaction politique à mon expérience, à ce que je pouvais vivre.
Vous expliquez généralement que vous préférez ne pas vous épandre sur les détails de votre histoire parce que vous refusez l'assignation au témoignage. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu ce que vous entendez par là et pourquoi ?
Alors, c'est quelque chose que j'ai assez rapidement perçu dans les luttes anticarcérales et d'une façon plus générale, les luttes autour des prisons, que j'ai aussi pu observer dans la manière dont se joue, la façon dont on parle de la prison dans les médias, donc d'une façon plus générale, hein, les médias dominants. C'est-à-dire que la parole des femmes autour de la prison est essentiellement une parole de mère et de compagne, en tout cas de femmes qui sont en lien avec quelqu'un à l'intérieur et à qui souvent on demande donc de témoigner à la fois de leur vécu et puis du vécu de la personne qui est à l'intérieur. C'est aussi ce qui se joue beaucoup dans les luttes autour des crimes d'État, que ce soit des crimes pénitentiaires ou des crimes policiers. Donc on fait appel beaucoup aux femmes pour témoigner et donc témoigner de leur histoire. Ce témoignage, il est évidemment important. C'est important que le système pénal et ses institutions, que sont la prison ou la police, soient racontées aussi à la première personne. Mais ce que j'observe aussi, c'est que cette position de témoignage, en tout cas en l'état actuel des forces politiques, ne permet pas de penser les personnes qui sont affectées par l'existence de la prison comme des sujets politiques. C'est-à-dire que on est dans des champs politiques et médiatiques qui attendent du témoignage, qui attendent une parole sensible sur le système. Cette assignation au témoignage qui est fait aux femmes, il n'est pas anecdotique ou propre à la question des prisons ou autour du système pénal. Il est aussi lié à des formes de division sexuelle du travail militant. On a très souvent, malheureusement, une forme de reproduction de ce qui est attendu hein, de manière genrée entre les hommes et les femmes. Et donc, des femmes qui témoignent, des femmes qui font un travail de solidarité, de travail émotionnel, de soutien aux personnes qui sont incarcérées, donc souvent à des proches ou à des camarades masculins qui témoignent de crimes d'État commis auprès de leurs proches. Et puis des hommes qui sont globalement plus dans la production d'idées, la production de contenu politique, de prise de parole. Alors évidemment, tout ça peut sembler un petit peu caricatural, là, dit comme ça, rapidement entre nous. Mais en tout cas, si j'en reviens à moi, mon refus d'être dans cette position de témoignage, c'est que j'ai voulu faire ce travail politique et académique sans avoir à être ramenée à ma position, à mon expérience, à ma subjectivité. Et je dis ça tout en disant en même temps que le simple fait de dire qu'on a ou qu'on a eu des proches en prison, qu'on a eu cette expérience de la prison de manière indirecte, de toute façon soulève des objections dans le champ académique. C'est-à-dire que j'ai été beaucoup confrontée à ça, à une parole qui est minimisée. Alors, sur le champ académique, c'est évidemment pas une expérience unique. Je pense que toutes les personnes qui appartiennent à une forme de minorité, quel que soit un groupe dominé, sont ramenées à cette subjectivité. Alors, moi, ce que j'appelle dans le champ académique, en tout cas dans celui des sens sociaux, c'est l'injonction à la réflexivité. C'est-à-dire que moi et les personnes en général qui, soit par leur appartenance, leur position sociale, leur expérience de vie, font part d'une expérience de domination, on leur demande de quelle manière cette position ou cette expérience sociale a influencé la production de leurs idées, de leurs analyses. Alors, ce qui est, à mon sens, extrêmement intéressant, cette injonction à en dire plus sur notre vie, sur notre expérience, parce que il y a énormément de gens à qui on ne demande jamais ce genre de questions. C'est-à-dire que on ne demande jamais à des chercheurs, à des chercheuses, comment le fait, quand même assez incroyable, de n'avoir jamais eu de proches incarcérés, de quelle manière le fait que vous apparteniez à un monde social dans lequel, à votre âge, vous n'avez jamais eu de proches incarcérés, que vous n'avez jamais été arrêté par la police, comment cet univers social influence la production de vos travaux. Et c'est-à-dire que moi, le jour où on demandera à tous les chercheurs de quelle manière cette expérience ou cette absence d'expérience a façonné leur travail académique, là peut-être que je partagerai dans le champ académique ou dans le champ politique mon expérience personnelle, qui n'est pas un secret, mais que je partage avec des gens avec qui j'ai du commun, j'ai une expérience commune. Désolée, c'était un peu long.
Non, mais je pense que c'est hyper intéressant et important de vous laisser la possibilité d'expliquer. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, j'aimerais savoir un peu pourquoi l'abolitionnisme pénal ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ce système ?
Alors, on peut peut-être partir du fait que la critique du système pénal est très largement partagée. C'est-à-dire, c'est même de l'ordre du sens commun que cela ne fonctionne pas très bien, avec cette idée qu'il faut le réformer, alors que ce soit par exemple sur le champ plus particulier de la prison. La réforme de la prison, Foucault l'a dit extrêmement clairement, ça fait partie du projet même de l'institution carcérale, elle se réforme en permanence et donc de cette manière, elle entretient l'idée de sa propre légitimité. Donc il y a d'un côté un champ extrêmement vaste, alors évidemment avec de la contradiction, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un consensus sur la portée des critiques, mais il y a un consensus sur le fait que c'est une institution ou un ensemble d'institutions très imparfait et que le système pénal ne produit pas toujours ce qu'il nous dit qu'il est censé produire, c'est-à-dire de la prévention des actes qui portent préjudice aux individus, des formes de réparation. Donc, on a un système qui est l'objet de critiques, avec ce paradoxe que tout ce champ de critiques laisse à la marge la question de l'existence même de ce système. En fait, la seule chose qui, dans les débats dominants, n'est pas questionnée, c'est l'existence même du système pénal. Cette question-là est encore à la marge, comme s'il y avait une évidence que les bénéfices que l'on pouvait tirer du système pénal valaient mieux que tous les problèmes qu'il suscite.
Pour préciser un peu, je vais poser des questions volontairement clichés sur l'abolitionnisme pénal. Mais je pense que c'est important d'y répondre parce qu'on est sur une pensée qui est encore peu connue. D'où le fait que vous sortiez ce nouveau livre avec des textes fondateurs. Une des questions qui est généralement soulevée, c'est mais est-ce que ce n'est pas un peu utopique de vouloir en finir avec la prison, les tribunaux, la police ?
Alors, je vais donner une réponse qui est souvent faite par les abolitionnistes. Désolée de manquer d'originalité ici, mais la véritable utopie, c'est de penser que le système pénal puisse se réformer et que la réforme du système pénal puisse être satisfaisante. hein, et que la véritable utopie, c'est d'avoir un système très largement basé sur la punition, la rétribution, donc des actes graves, et que ça puisse être une solution pour à la fois prévenir la commission de faits, et puis y apporter une solution. Donc, je dirais, pour nous, les abolitionnistes, c'est ça la véritable utopie. Alors, on peut évidemment répondre à cette question d'une autre manière, qui est de dire que, effectivement, c'est souvent ce qui nous est renvoyé, hein, le caractère utopique d'abolir le système pénal. Mais cette critique, elle vient aussi d'une méconnaissance de ce qu'est le système pénal. Le système pénal n'a pas toujours existé. Il n'y a aucune raison de penser qu'il existera toujours. En tout cas, ça dépend de nous, ça dépend de nos luttes. Et puis, on peut répondre encore à un autre niveau, non pas simplement au niveau de l'histoire de l'humanité, mais au niveau individuel, de l'expérience individuelle. Nous avons tous et toutes de multiples manières de résoudre les situations qui nous posent problème. Nous n'avons pas toujours recours à la punition, ni toujours recours au système pénal. Nous avons en fait une diversité dans nos manières de répondre aux situations qui nous posent problème. Et donc, ce qui serait utopique, ce serait de penser que ce modèle du traitement des situations qui causent des torts aux individus puisse ou doive être imposé dans toutes les situations de la vie qui posent problème. Hein, et la vie en société va forcément avec des situations qui posent problème, qui font préjudice, qui font tort à des individus.
Il y a un autre cliché qui est assez répandu, j'ai l'impression, c'est que sans cette institution pénale, on risque de vivre sous la loi du plus fort.
Alors, on peut dire que c'est déjà la loi du plus fort. Il s'agit de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on entend par les plus forts. Là aussi, hein, je vais répondre d'une manière générale de ce qui se dit dans le courant abolitionniste, les pensées abolitionnistes. L'idée, c'est en abolissant le système pénal, non pas d'avoir recours à une autodéfense généralisée et ce qu'on entend généralement par loi de la jungle, vendetta, etc., hein, ce genre d'expression qui renvoie à l'idée que ce serait le chacun pour soi et effectivement la loi du plus fort. Mais quand on regarde aujourd'hui le fonctionnement du système pénal, force est de constater que oui, c'est la loi du plus fort, c'est à la fois une justice de classe, une justice raciste. Les femmes sont victimes de violences à caractère sexuel de façon massive, hein, sans que aucune solution ne soit réellement donnée à ce problème de victimation de masse. Donc aujourd'hui, on vit en fait dans cette loi du plus fort qui entretient le mythe d'un système pénal qui permet de pacifier la société et du coup qui, à rebours, pourrait nous faire croire que sans le système pénal, on aurait une société beaucoup plus violente, hein, avec notamment cette idée que les sociétés qui ont des systèmes de vendetta sont des sociétés beaucoup plus violentes, hein, ce que la recherche a tendance à réfuter en fait, hein, en termes de commission d'actes violents.
Moi, ce qui m'interpelle au fil de ma découverte donc de ce courant de pensée, c'est que en parallèle, je vois dans l'actualité, dans la vie politique française, qu'on observe plutôt une dynamique de durcissement des peines. Qu'est-ce qui explique que, puisque la recherche le montre, que les résultats ne sont pas là, on persiste à rendre ce système pénal encore plus sévère, alors que, bon, bah, a priori, c'est pas la bonne technique, quoi.
Alors, si les politiques pénales s'appuyaient davantage sur la recherche, je pense que ça se saurait. Je ne sais pas comment répondre à ça. Peut-être que ce qu'on peut dire, c'est que les logiques politiques et les logiques des politiques pénales sont pas celles de la recherche. Elles s'appuient évidemment sur d'autres dynamiques que les découvertes scientifiques et les analyses critiques que peuvent fournir les travaux scientifiques. On a aussi affaire à un mouvement assez général qu'on observe dans les pays occidentaux, en gros, depuis le tournant des années 70, d'un durcissement des politiques pénales. Alors, avec peut-être un certain reflux depuis quelques années aux États-Unis, mais bon, on a eu quand même ce mouvement général de durcissement des politiques pénales, et puis une dynamique qui est celle des mouvements sociaux qui se sont en partie appuyés sur le système pénal. C'est-à-dire que des mouvements, par exemple des mouvements féministes, ont réclamé de plus en plus de criminalisation, par exemple des auteurs de violences à caractère sexuel, hein, des formes de durcissement du système pénal, hein, d'allongement des peines, de systématisation de la sanction pénale. Donc ça a quand même contribué, en tout cas à légitimer les réponses de type pénal. Et puis ce mouvement qui vient du champ des mouvements sociaux, il fait aussi écho donc à ce qu'on appelle de manière assez générale le populisme pénal, hein, la manière dont les politiques se sont appuyées et ont nourri une demande de sécurité de façon extrêmement mal informée.
Pour rentrer un peu dans le concret, je voudrais qu'on parle un peu des modes de résolution des conflits ou des situations problèmes. Les mots de Lucasman, qui est donc l'un des auteurs dont vous traduisez le texte dans ce livre « Crime et peine ». Ah non, je me suis trompée.
C'est pas moi qui traduis.
Oui, donc que vous contextualisez, qui est traduit pour la première fois en français dans le livre que vous publiez. Mais effectivement, la tradition, je crois, c'est Pauline Picot et...
Lydia Marouche. Non, je dis ça parce que les traductrices, en plus c'est souvent des femmes qui traduisent, sont souvent invisibilisées. Donc voilà, c'est vrai que je tiens à ce que leur travail soit reconnu.
Vous avez complètement raison. Donc ma question, c'était quels sont les modes donc de résolution des conflits ou des situations problèmes.
Oui, alors c'est une expression effectivement de Lucasman, donc un juriste néerlandais qui a à partir des années 70 était extrêmement actif à la fois dans la pensée, dans les mouvements sociaux abolitionnistes et qui notamment a proposé d'éviter de parler de crime pour un tas de raisons, à commencer par le fait que c'est une catégorie du droit pénal, et il a suggéré de parler de situation problème. Cette expression, elle a plusieurs intérêts, à commencer par le fait de ne pas distinguer ce qu'on pense et ce qui est aujourd'hui pensé comme des crimes ou des délits de manière différente d'autres situations qui nous semblent des situations beaucoup plus ordinaires, et donc de proposer de penser ces situations sans en faire des catégories figées, des catégories homogènes comme le voudrait le droit pénal, et donc de partir de ce qui fait problème aux individus plutôt que de ce qui fait problème à l'État, parce que c'est le propre des catégories pénales, d'être des situations que l'État sanctionne. Alors que lorsque on part avec Lucasman des situations problèmes, on part de la définition qu'ont les individus d'une situation et des problèmes que ça leur pose à eux, hein, et non pas une définition qui vient de l'État. Et en partant de cette expérience des situations problèmes et de l'observation de la manière dont les individus résolvent ou réagissent à ces situations problèmes, Lucasman nous dit qu'il y a toute une palette de réactions, alors qui peuvent parfois se combiner, mais que, en fait, la manière de réagir sur un mode punitif est juste une des manières de traiter une situation qui fait problème. Hein, on peut avoir des modes de conciliation, des modes thérapeutiques, on peut avoir aussi de l'évitement, c'est-à-dire le choix se dégager d'une situation problème. Hein, ça fait aussi partie des possibilités. Toutes les situations problèmes ne méritent pas d'avoir un traitement formel. Je pense que c'est important de le rappeler dans une société qui, au contraire, pousse pour la formalisation de toutes les situations, hein, avec des procédures. On peut aussi imaginer que certaines situations ne méritent pas d'être traitées de manière formelle. Et donc, cette perspective de partir de la définition par les individus de situations qui posent problème et de voir toutes les palettes de réactions possibles nourrit un imaginaire. Je dis ça parce que les abolitionnistes ne proposent pas un mode d'emploi, des recettes qui s'appliqueraient à toutes les situations et dans toutes les circonstances, avec aussi cette idée qu'il nous reste à penser des manières de faire. Je m'arrête ici parce qu'en fait, je peux continuer.
Bien sûr, on va détailler un peu certaines de ces manières de faire qui ont quand même commencé à être imaginées au moins. Dans votre livre, vous expliquez qu'il y a eu d'abord une conception d'une justice restauratrice dans l'élaboration d'autres solutions que la justice pénale. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est? Et pourquoi finalement il y a des limites qui ont été posées à ça? C'est Ruth Morris qui a défini un peu quelles étaient les dérives possibles avec la justice restauratrice.
Alors la justice restaurative, elle commence à être formulée d'abord en Amérique du Nord, notamment autour d'un auteur qui s'appelle Howard Zerr, autour aussi des églises mennonites. Et donc, on a à la base de ce mouvement une pensée critique du système pénal, en particulier donc de son caractère rétributif, en clair, de la punition sur laquelle le système pénal repose, hein, cette idée qu'une infraction doit être sanctionnée. C'est ça qu'on appelle le caractère rétributif de la justice pénale. Howard Zerr et donc tout ce mouvement autour de la justice restaurative plaident pour des formes de réparation, de restauration du lien social. Donc les termes de réparation et de restauration ont été, dans l'espace francophone, un petit peu utilisés l'un pour l'autre. Il y a quelques subtilités, mais qui ne sont pas réellement intéressantes ici. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a appelé en France justice réparatrice, justice restaurative. Cette idée, donc, qu'il ne fallait pas simplement punir, mais qu'il fallait donc restaurer le lien social, restaurer la relation qui avait été abîmée par une infraction. Ça a donné lieu à tout un mouvement, notamment à partir des années 90, dans beaucoup de pays occidentaux, à commencer par le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, des pays qui ont mis en place d'autres façons de faire au sein même du système pénal. Et c'est là où, en fait, il y a eu des polémiques, des controverses, que ça nourrit une réflexion abolitionniste, c'est que ces façons de faire, et notamment d'intégrer la communauté ou les proches, l'entourage familial, l'entourage social, dans des procédures de réparation, tout cela a été essentiellement instauré par les systèmes pénaux eux-mêmes. Et du coup, on n'est pas sorti du système pénal. On a eu un système pénal qui s'est en partie redéfini. Alors là, je parle évidemment en généralité parce que lorsqu'on parle de justice restaurative, on parle d'énormément de procédures, de manières de faire qui sont très diverses selon les pays, selon la manière dont c'est mis en place. Il y a des formes de justice restaurative qui restent encore à l'extérieur du système pénal. Mais en tout cas, on peut dire que à partir des années 90, puis autour de l'an 2000, il y a eu de façon de plus en plus claire pour les abolitionnistes l'idée qu'il n'y avait pas à attendre de la justice restaurative à moyen terme et même à long terme une disparition du système pénal, mais qu'on avait plutôt à faire un changement de l'institution elle-même, une redéfinition de ses manières de faire.
Il y a quelque chose d'intéressant aussi dans les critiques qui sont formulées par Ruth Morris, qui est l'incapacité de la justice restaurative, j'arrête pas de faire l'erreur.
Mais je pense que les deux se disent...
Donc l'incapacité de la justice restaurative à intervenir ou prévenir dans le cadre de violences conjugales ou domestiques.
En fait, je réfléchis parce que je ne suis pas sûre qu'elle l'ait dit, et je pense que c'est plutôt des féministes qui se sont appuyées sur elle pour le dire. Toutes les réflexions portées par le courant de la justice restaurative ont évidemment intéressé les féministes, et en particulier les féministes critiques du système pénal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir l'impression que le féminisme est une sorte de bloc autour de la question des violences à caractère sexuel, mais c'est évidemment loin d'être le cas. Il y a toujours eu des voix féministes pour s'opposer au sens commun selon lequel il faut criminaliser les auteurs et que c'est comme ça que l'on fera avancer la cause des femmes. Alors, il y a eu cet intérêt pour donc les pratiques et les réflexions autour de la justice restaurative, mais il y a eu aussi assez vite des critiques qui ont été formulées par des féministes pour dire que, en tout cas, ce qui était proposé dans le cadre de la justice restaurative posait un certain nombre de problèmes dans le cadre des interventions féministes, et notamment en raison de certaines spécificités des violences faites aux femmes, en particulier dans le cadre conjugal, les dynamiques de pouvoir qui étaient en jeu, et que du coup, c'était des outils qui avaient des limites certaines dans le cadre des luttes contre les violences à caractère sexuel, en tout cas de la manière dont un certain nombre de procédures de justice restaurative étaient mises en place. Je n'ai pas forcément beaucoup plus de choses à dire, et ça m'embête toujours un peu de taper trop fort sur la justice restaurative.
Il n'y a pas de souci, on va passer à la suite. Je voudrais qu'on parle un peu de justice transformative, qui est un autre concept. Et si possible, est-ce que vous pourriez donner un petit peu des exemples de comment ça se met en place concrètement ?
Alors la justice transformative est née pour l'essentiel d'une réflexion critique sur la justice restaurative, sur ses limites, et elle naît dans des communautés de personnes particulièrement marginalisées en Amérique du Nord, avec l'idée que pour certaines catégories de la population, il y a de toute manière impossibilité de recourir au système pénal, ou que le système pénal, s'il intervient, les met en danger ou met en danger leur communauté. Et donc, à partir des années 2000, il y a eu un certain nombre de groupes qui se sont créés en Amérique du Nord et qui ont travaillé à la mise en place de procédures au sein de leur propre communauté ou d'un ancrage géographique, avec parfois certaines spécificités comme des groupes qui travaillent sur la question des violences sexuelles et des violences intracommunautaires, ou d'autres groupes qui sont ouverts à différents types de victimation. Alors ces procédures, elles sont par définition longues, puisque l'une de leurs caractéristiques, c'est d'appuyer une victime et de répondre aux besoins d'une victime. Et donc ces besoins-là, ils s'inscrivent parfois dans un temps extrêmement long, et les besoins peuvent varier selon les moments, selon la temporalité de la personne qui a été victime. Les procédures sont diverses selon les besoins à la fois des victimes, mais aussi les besoins des auteurs ou des agresseurs, selon le vocabulaire qui est employé, et puis aussi selon les communautés, selon les besoins des communautés. Mais on peut dire que le principe général, c'est celui d'un accompagnement, si on prend un terme un peu général, d'une victime, et la mobilisation d'une communauté autour de cette victime, donc de créer une communauté de ressources. Et puis, l'un des principes de ces groupes de justice transformative, c'est ce qu'on appelle la responsabilité communautaire. C'est l'idée que la personne qui a commis un acte qui a porté préjudice à une personne a une responsabilité envers la communauté, mais la communauté a aussi une responsabilité. Et donc, c'est l'idée de changer les structures qui ont permis la commission d'un tel acte. Et donc, c'est mettre en mouvement un auteur, de quelle manière il va pouvoir se transformer et réparer dans la mesure où c'est possible de réparer, mais aussi transformer une communauté afin qu'elle se mobilise et change des manières de faire collectivement.
Moi, je me demande ce qui existe déjà en matière de justice transformative ou de justice restaurative. Qu'est-ce qui est déjà mis en place, que ce soit par des États, avec les critiques qui vont avec, ou dans des communautés qui s'émancipent justement de la structure étatique?
Alors, en France, suite à la loi Taubira, il y a eu le début de la mise en place de mesures de type justice restaurative. En France, ça prend essentiellement deux formes. C'est les rencontres entre victimes et auteurs, et ce qu'on appelle les cercles de responsabilité, c'est-à-dire des cercles de soutien, d'accompagnement à des personnes qui sortent de prison. Alors, c'est une formule qui avait d'abord été mise en place autour de personnes auteurs de violences à caractère sexuel ou qui craignaient, avaient conscience d'un possible passage à l'acte, donc de type violence à caractère sexuel. Donc aujourd'hui, on a ça dans le contexte français, mais qui est quand même encore relativement balbutiant. C'est des choses qui donc sont pratiquées depuis pas mal d'années dans beaucoup de pays occidentaux. Tout ça reste essentiellement dans le cadre du système pénal. Et c'est une des distinctions entre la justice transformative et la justice restaurative, c'est que la justice transformative se situe en dehors de l'état pénal et donc aussi repose sur un cadre bénévole. Et ça a une importance dans les distinctions qu'on peut faire dans ces formes de justice, parce que la mise en place de la justice restaurative, lorsqu'elle se fait dans le cadre de l'état pénal, engendre aussi tout un secteur d'activité, hein, de personnes qui se professionnalisent dans des formes de résolution des conflits, de médiation, donc d'accompagnement des personnes qui sortent de prison. Alors avec aussi parfois du recours au bénévolat par l'état pénal, mais on sait très bien qu'il y a des vases communicants entre un secteur qui s'affiche comme le secteur du bénévolat, mais qui engendre des formes de professionnalisation et puis des formes de financement d'usage des fonds publics. Donc, il y a aussi un enjeu ici de comment, en fait, il y a la création d'un secteur économique avec l'instauration de la justice restaurative.
C'est mis en place parcellaire, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on peut considérer quand même que ce sont des étapes vers l'abolition du système pénal, ou est-ce qu'il existe, si elles n'en sont pas, d'autres manières de faire qui seront des étapes vers l'abolition du système pénal? Je pose la question parce que j'ai souvenir d'avoir lu ou entendu que vous parliez de plusieurs dizaines d'années avant d'atteindre réellement l'abolition pénale. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait en attendant, quoi ? Comment on fait pour avancer vers là ?
Je pense qu'il y a plusieurs manières de répondre à votre question et des manières plus ou moins optimistes, en tout cas d'un point de vue abolitionniste, d'y répondre. Un point de vue très, très optimiste, ce serait déjà de mettre la focale sur les personnes qui sont les cibles de ces mesures et de reconnaître que pour un certain nombre d'entre elles, elles ont tire des bénéfices réels, c'est-à-dire que une personne qui est victime et qui a accès à une rencontre entre victime et auteur va sans doute en avoir un bénéfice, et il s'agit pas de négliger ce bénéfice et du coup de faire porter la critique sur les individus qui participent à ce type de processus. De la même manière que des personnes qui ont été auteurs de faits et qui trouvent un bénéfice dans leur engagement dans ce type de procédure, il s'agit bien sûr de reconnaître ce bénéfice à l'échelle individuelle. Mais ma réponse, elle est globalement beaucoup plus pessimiste, c'est-à-dire que je pense qu'il s'agit, comme tous les aménagements ou toutes les alternatives proposées par le système pénal, de formes de justification du système, hein, de le rendre plus acceptable, et finalement de répondre à une objection qui lui a été souvent faite, hein, de reposer essentiellement sur la punition. Et donc là, avec la justice restaurative, le système pénal propose d'autres formes de réponses, mais il s'agit toujours du système pénal. Alors, quant à savoir comment l'abolition aura lieu et de quelle manière, en fait, la question de la stratégie, c'est vrai qu'au sein des mouvements abolitionnistes, il y a tout un courant de pensée, de pratiques politiques qui promeuvent une stratégie par étapes, hein, avec cette idée qu'il s'agit de réduire le pouvoir du système pénal ou d'institutions particulières comme la prison ou la police afin d'arriver à l'étape finale qui sera celle de l'abolition totale du système pénal. Pour ma part, je suis assez sceptique sur cette option stratégique. Je pense qu'on n'aura pas une abolition du système pénal sans l'abolition de systèmes auquel il est intimement articulé, comme le capitalisme, le racisme systémique. Et donc, que de penser la seule abolition, c'est au pire une utopie technologique où finalement on remplacera certaines institutions qui nous paraissent particulièrement scandaleuses, comme la prison, par des formes de surveillance technologique. Et donc, on pourra abolir certaines formes du système pénal qui heurteront les sensibilités. Et donc, ça, j'imagine très bien une abolition de la prison en l'espace de quelques décennies grâce à des outils technologiques. Après, pour ce qui est de l'abolition, en tout cas telle que moi je la pense, je ne la vois pas en dehors d'un processus révolutionnaire. Et donc, pour revenir à votre question, je pense qu'il y a néanmoins aujourd'hui des bénéfices à tirer de façon collective, hein, cette fois, des pratiques de justice restaurative, dans la mesure où ça nous permet de penser plus tard, de penser à long terme. C'est le processus historique dont on a besoin pour ensuite pouvoir promouvoir des façons de faire collectives qui ne portent pas préjudice aux individus et à la collectivité.
Alors, on en a déjà un peu parlé, mais par bribes, j'ai l'impression, donc je voudrais revenir dessus un petit peu. Et peut-être qu'on peut le faire à travers un autre concept qui est abordé dans votre livre, qui est « The Dangerous Few ». Et je voudrais l'aborder à travers l'angle un peu féministe, ou en tout cas l'angle des violences contre les femmes, des violences de genre. C'était une des questions qui était un peu au cœur de votre premier livre. Qu'est-ce qu'on fait, quelque part, des violeurs ou des hommes violents ?
Je pense qu'une première interrogation qu'on peut formuler, c'est est-ce que vraiment il faut le penser sur un mode différent d'autres formes de victimation ? Est-ce qu'il y a une spécificité des auteurs de violences à caractère sexuel ? Et c'est vrai qu'il y a tout un discours qui entoure les personnes auteurs de violences à caractère sexuel, en fait, les assignant à cet acte-là, hein, on dit les violeurs, on ne dit pas d'ailleurs personne ayant commis des violences à caractère sexuel. Et donc, il y a des formes d'essentialisation, hein, des auteurs de violences à caractère sexuel. Donc, ce sont des violeurs. Et donc, avec cette idée, hein, qu'ils vont forcément commettre de nouveaux viols. Alors, il y a une partie de vérité que l'on sait d'un point de vue académique, mais ça mériterait d'être fouillé, hein, c'est que les auteurs de violences à caractère sexuel qui sont condamnés, qui passent par la prison, lorsqu'ils récidivent beaucoup plus en matière de violences à caractère sexuel que les autres types d'auteurs de fait. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, quelqu'un qui est condamné pour un vol de voiture, le risque de récidive exactement sur le même type d'acte est beaucoup moins élevé que pour un auteur de violence à caractère sexuel. Et évidemment, ça crée une forme d'évidence que ces personnes-là doivent être mises hors d'état de nuire. Hein, donc c'est la fonction de mise à l'écart du système pénal, hein, d'enfermement, pour éviter toute forme de récidive, de commission d'un nouveau acte. Alors, ce qui laisse d'ailleurs dans l'ombre la question des violences sexuelles qui sont commises en prison. C'est-à-dire que lorsque, aussi, hein, on appelle à enfermer les violeurs, on ne pose pas la question des viols en détention. Hein, donc, ce discours qui est relativement basique. Alors, évidemment que je comprends la réaction de beaucoup de féministes d'avoir d'abord une réponse en termes de sécurité et de penser que la sécurité, c'est d'enfermer des auteurs de viols. Toujours est-il que non seulement ça ne fait pas baisser le niveau des violences à caractère sexuel, et puis ça protège que momentanément ou que certaines personnes des violences à caractère sexuel. L'autre problème que pose la réponse, qui est quand même une réponse relativement simpliste quand on y réfléchit, de dire il faut enfermer les violeurs, c'est qu'on a affaire à un système qui est profondément raciste, qui s'appuie sur une justice de classe. Et donc, lorsqu'on dit « il faut enfermer les violeurs », en fait, on dit « il faut enfermer les violeurs qui sont issus des classes populaires, qui sont issus de l'immigration, qui sont issus de l'histoire coloniale ». Hein, de la même façon, lorsque on appelle à criminaliser le harcèlement de rue, on appelle à criminaliser certains hommes. Hein, certains hommes qui sont, encore une fois, ceux des milieux populaires, issus de l'immigration et de l'histoire coloniale. Et donc, c'est pour ça qu'on peut vraiment parler d'une réponse simpliste lorsque on s'appuie sur le système pénal et sur l'enfermement pour s'attaquer à la question des violences à caractère sexuel, puisque, en fait, il y a à la fois l'histoire des politiques pénales qui nous montre que la criminalisation de certains hommes ne permet pas de faire baisser le niveau des actes qui sont commis, et puis on n'a pas de certitude, et on a plutôt même des certitudes inverses, sur ce que l'enfermement, la punition fait à ces hommes-là. Hein. Est-ce que ça en fait des hommes qui sont meilleurs, Certainement pas. Est-ce que ça contribue à d'autres passages à l'acte? Sans doute. Et donc, on a un système qui nous garantit aucune sécurité, à la fois individuellement, mais aussi collectivement.
Donc, les solutions peut-être plutôt à envisager seraient de celles qu'on a déjà mentionnées plus tôt au cours de cette discussion, en quelque sorte?
Là où j'ai une gêne dans ma réponse, c'est que pour moi, l'abolition du système pénal, c'est pas quelque chose que l'on décrète aujourd'hui, mais c'est un processus social qui va avec la transformation des structures sociales. Et donc, je ne suis pas contre la disparition demain de la prison, hein, c'est pas le sens de ma réponse, mais en tout cas, si demain il n'y avait plus de prison, il serait très urgent qu'on invente d'autres manières de faire. Et je ne suis pas sûre qu'en l'état actuel, on ait collectivement des réponses ou une pratique collective de la résolution des situations problèmes, de prise en charge collective des violences à caractère sexuel qui nous permettent de ne pas retomber dans des approches punitives des actes les plus graves.
Alors, je voudrais revenir à ce nouveau livre, donc, « Crime et peine, penser l'abolitionnisme pénal ». Vous dites à un moment que vous n'aviez pas accès à ces textes au départ, donc aux textes de Niels Christie, Luke Hulsman et Russ Morris, alors que ça vous aurait été bien utile. Vous n'y avez pas accès parce qu'ils n'étaient pas disponibles en français, en France en quelque sorte?
Oui, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'abolition de la prison et du système pénal, donc autour des années 2000, je lisais très très mal l'anglais. Et Luke Hulsman avait publié un livre, Peine perdue, qui n'était plus disponible et que j'ai fini par avoir en format photocopie. C'est vrai qu'à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là, il y avait essentiellement le texte de Catherine Becker, Pourquoi faudrait-il punir. Il y avait évidemment dans les références Angela Davis, mais qui à l'époque n'était pas traduite en français. Je vais peut-être vous donner l'impression d'être un dinosaure, mais on n'avait pas accès à Internet, ou du moins c'était un petit peu les débuts. Donc je me souviens d'entendre parler, par exemple, du mouvement Critical Resistance aux États-Unis au début des années 2000, mais sans avoir vraiment accès à leurs réflexions, à leurs textes. Donc, c'est vrai que c'était un contexte très franco-français en termes de diffusion, production des idées. Et c'est par la suite, en apprenant davantage l'anglais, puis par mon travail académique qui m'a permis aussi des déplacements, d'aller par exemple au Québec, au Canada, donc de faire des rencontres, de pouvoir... Donc, avoir accès à d'autres textes et à d'autres débats autour de l'abolitionnisme.
Est-ce que le fait qu'ils aient jamais été traduits avant aujourd'hui, donc en français, ce serait symbolique du fait que le sujet de l'abolitionnisme pénal est peut-être plus tabou ici qu'ailleurs?
Alors, j'emploierai pas le terme de tabou. Je dirais que c'est plus, à mon sens, le résultat d'une histoire politique et d'une histoire des idées qui s'est faite différemment dans l'espace nord-américain et dans l'espace de l'Europe continentale, avec en Europe continentale un abolitionnisme pénal qui est très lié aux luttes anarchistes, à la pensée anarchiste, alors qu'en Amérique du Nord, l'abolitionnisme pénal a eu tendance à s'autonomiser, à aussi, on peut dire, par certains aspects, à devenir plus mainstream, surtout ces dernières années. Donc il y a des histoires politiques qui sont différentes. Et puis, mais c'est aussi le propre souvent des mouvements politiques relativement marginaux, c'est la question de la transmission. L'abolitionnisme pénal, on peut dire de la première vague, cette vague des années 70, elle a été extrêmement riche, elle a été très européenne, hein, d'une certaine manière. Par contre, il n'y a pas eu forcément de transmission à la fois de ce qui s'est pensé à ces moments-là, sur les luttes. Il y a beaucoup, dans le contexte éditorial français, de publications autour des luttes des prisonniers, autour du GIP, autour du CAP. Alors d'ailleurs, plus du GIP que du CAP, notamment parce que c'est des luttes et des mouvements qui ont été en partie portés par des figures intellectuelles, à commencer par Michel Foucault. Hein, et donc, il y a des formes de réédition des archives politiques de ces mouvements-là. Par contre, les réflexions abolitionnistes qui se sont faites dans d'autres cercles, qui n'étaient pas donc le cercle des luttes de prisonniers ou des luttes contre la prison, en tout cas, ces formes-là ont eu beaucoup moins de visibilité.
Est-ce que... quelque part, c'est cette histoire ou ce besoin de croiser les perspectives qui vous a conduit à aller étudier ou à aller faire ce travail académique à l'étranger. Est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité de le faire vraiment en France ou c'est juste une forme de hasard et d'opportunité ?
Alors, mon choix d'immigrer aux États-Unis, il est en bonne partie un choix parfaitement personnel, mais c'est vrai qu'il est en même temps lié au fait que j'étais amenée à aller régulièrement aux États-Unis pour des raisons académiques, qui étaient évidemment liées à mon intérêt pour les débats qu'il y a aux États-Unis, les débats critiques sur le système pénal, et puis aussi mon intérêt pour la manière dont les luttes se créent, hein, de quelle manière les abolitionnistes ici pensent les stratégies politiques.
Il y a un moment dans le livre où vous dites que le travail intellectuel peut participer à l'émancipation collective et en fait que les textes que vous avez choisis pour ce nouveau livre donc ont participé de cette prise de conscience et vous ont aidé à dépasser des freins que vous aviez avant de vous lancer dans cette voie. Quels étaient ces freins ? Qu'est-ce qui vous a convaincu finalement que oui, le travail académique était pertinent ?
Sans doute parce que j'y ai trouvé à la fois des explications et des manières de dépasser mon expérience individuelle. Hein, je pense que c'est là où il y a un potentiel émancipateur du travail académique, hein, non pas simplement de donner du sens à l'expérience individuelle, mais bien de voir qu'il s'agit d'une expérience collective. Et en l'occurrence, pour moi, ce qui a été important, c'était de dépasser ce qui était donc une expérience en tant que proche pour essayer de penser ce que le système pénal faisait à nos vies de manière collective, hein, et non pas simplement sur un plan individuel.
Il y a aussi quelque chose qui m'a interpellée. Vous parlez d'une forme d'optimisme qui se lirait quelque part, qui transparaîtrait des textes donc, que vous avez choisis. C'est vrai que c'est un peu à se demander déjà d'où il venait, puisque le contexte ne semblait pas non plus formidablement propice à l'abolitionnisme pénal. Bah, où est-il passé ? Quelque part, c'est facile de répondre à cette question, parce que ça a probablement été enseveli sous la dynamique sécuritaire qui est en marche depuis. Mais d'où ça venait, à votre avis ? Et est-ce qu'on peut espérer que le regain de visibilité qu'ont eu ces idées depuis un an, je dirais que les luttes abolitionnistes, c'est ce que vous dites d'ailleurs aussi dans votre livre, que le meurtre de George Floyd a visibilisé les luttes abolitionnistes. Est-ce qu'on peut espérer que ça revitalise ces mouvements, malgré toute la douleur qu'il y a dans cet événement et la tragédie ?
L'optimisme de ces abolitionnistes de la première vague, il peut s'expliquer de différentes manières, mais il y a sans doute un effet de génération. On les a pas interrogés là-dessus, mais c'est quand même quelque chose qui revient assez régulièrement, à la fois dans leurs propres écrits ou dans les analyses qui ont pu être faites de leurs travaux. C'est-à-dire c'est une génération qui soit a connu la Seconde Guerre mondiale, soit même plus spécifiquement l'enfermement lié à la répression politique, ou qui ont été des témoins extrêmement proches on peut dire des horreurs de la guerre, des horreurs du nazisme. Hein, par exemple, Niels Christie a été extrêmement marqué par sa première recherche qu'il a faite sur les gardiens d'un camp de concentration en Norvège, et donc sur les horreurs de l'enfermement. Hein. Il fait régulièrement allusion à ce premier travail de recherche qu'il a fait lorsqu'il était en maîtrise. Donc, il y a, à mon sens, un effet de génération, hein, qu'on a vu d'ailleurs dans un élan réformiste qu'a suivi la Seconde Guerre mondiale dans le système carcéral français. Hein. Il y a eu quand même toute cette génération qui avait pour certains connu la déportation, qui rentrait des camps et qui ont apporté un élan réformateur sur les questions d'enfermement et d'incarcération. Donc il y a cet effet de génération. Il y a aussi sans doute... Je dirais une vision abolitionniste du monde qui est profondément optimiste et qui peut-être relève d'une position philosophique qui est celle de croire fondamentalement que les êtres humains peuvent donner le meilleur malgré tout le pire qu'on a pu observer. Donc, je pense qu'il y a soit sincèrement un optimisme qui est lié à la croyance en l'être humain, à sa capacité à imaginer, à être dans des formes de réparation, de processus collectif, hein, cette croyance fondamentale en l'être humain. Ou alors le pari de l'optimisme, parce que c'est un peu la seule solution qui nous reste face donc au chaos du monde, au malheur du monde.
Je m'interrogeais sur la revitalisation de ces mouvements aussi, donc dont j'ai l'impression d'être témoin depuis un an, et c'est ce que vous mentionnez aussi dans votre livre.
Alors, on peut voir ça de différentes manières. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le fait qu'il y a une visibilité des idées et des luttes abolitionnistes dans ce que j'en vois des médias français depuis effectivement le meurtre de George Floyd, dans le sillage de Black Lives Matter, des mouvements pour l'abolition de la police, pour définancer la police, hein, avec ce slogan de Defund. Donc il y a cette visibilité. Qui est encore plus forte aux États-Unis et puis dans une moindre mesure en France, mais c'est vrai qu'il se passe quelque chose autour des idées abolitionnistes. Alors, après, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, cette visibilité? Il y a effectivement aux États-Unis, depuis l'an 2000, une montée en puissance des mouvements, des réflexions, des luttes abolitionnistes, hein, et notamment depuis la création de Critical Resistance, dont l'une des fondatrices est Angela Davis, et donc c'est le mouvement abolitionniste certainement le plus connu, le plus visible, qui a maintenant une existence de plus de 2 décennies, donc une constance, une production de textes, une production d'analyses, une production de propositions stratégiques, et donc il est c'est un mouvement qui est relativement bien ancré dans le paysage politique quand même de l'extrême gauche. Hein. Faut quand même ramener au fait que on parle là d'un mouvement qui se situe dans les marges du champ politique. Alors, il y a cette montée en puissance depuis les années 2000. Il y a évidemment pas que Critical Resistance, il y a aussi d'autres groupes sur des luttes plus spécifiques contre la construction de nouvelles prisons, contre la police. Et puis, il y a un phénomène avec Black Lives Matter, mais surtout depuis le meurtre de George Floyd, dans le contexte qui était aussi celui de l'élection présidentielle, enfin de la campagne pour l'élection présidentielle, qui fait qu'on a vu chez les démocrates une récupération, instrumentalisation de certains mouvements abolitionnistes, de certaines idées qui ont évidemment été reformulées. Et ça a été particulièrement visible au moment de la campagne électorale qui a battu son plein au moment du meurtre de George Floyd. Mais c'est aussi quelque chose qui s'observait sous Trump et la façon dont les démocrates ont essayé de se revitaliser comme organisation politique, avec par exemple des critiques qui étaient faites sur les centres de détention, avec même des slogans qui étaient repris par le camp démocrate, hein, d'abolir ICE. Donc ICE, c'est un peu l'équivalent de la police aux frontières et donc des camps de rétention. Donc on a vu comme ça une sorte d'importation, reformulation à la fois de slogans et de réflexions qui avaient d'abord été formulées, on peut dire, par les abolitionnistes. Et donc il y a aujourd'hui beaucoup moins de clarté politique qu'il peut y avoir en France, où c'est assez clair que l'abolitionnisme pénal est situé à l'extrême gauche, est situé dans un projet politique révolutionnaire. On a aux États-Unis des formes beaucoup plus consensuelles autour de l'abolitionnisme, où il devient beaucoup plus difficile de faire la part des choses entre des stratégies réformistes dans une perspective abolitionniste et des projets politiques foncièrement réformistes, mais qui utilisent une rhétorique abolitionniste pour promouvoir un agenda réformiste.
C'est hyper intéressant, je trouve, cette évolution. Et justement, si on se réfère au texte que vous avez choisi de mettre en avant dans votre livre et à l'actualité et à la manière dont vous pensez aujourd'hui l'abolitionnisme, qu'est-ce qui est différent peut-être entre votre pensée aujourd'hui et celle de ces auteurs, de ces autrices dont vous avez choisi de mettre la pensée en avant ?
Je pense que l'aspect par lequel ces textes sont sans doute les plus datés, c'est sous l'angle de la question de la race. C'est-à-dire que ils ont des visions qui reflètent assez bien les progressistes blancs de cette époque-là, avec une compréhension du caractère raciste du système pénal, hein, des inégalités raciales devant le système pénal, mais aussi sans doute des formes de... en fait, beaucoup de choses ont été pensées depuis et... notamment la question des liens entre le système pénal et la colonisation. Alors la colonisation, quand on dit ça, on parle aussi du caractère colonial aujourd'hui de pays comme les États-Unis ou le Canada, hein, qui sont donc des colonies de peuplement, avec la question des populations autochtones qui est de plus en plus évoquée par les abolitionnistes, et donc la question de... comment des mouvements qui ont été à la base essentiellement des mouvements blancs peuvent prendre en charge cette question-là et quelle est la responsabilité aussi des abolitionnistes en tant que mouvement politique de ne pas reproduire les structures coloniales, hein, et d'être réellement dans une réparation décoloniale des préjudices qui ont été subis par les populations autochtones du fait de la colonisation. Donc ça, je pense que c'est un enjeu majeur pour les abolitionnistes aujourd'hui, en tout cas en Amérique du Nord. C'est aussi un enjeu, à mon sens, pour les abolitionnistes en France, en Europe continentale, de s'emparer de la question coloniale, de s'emparer de la question de l'esclavage. Par exemple, dans le contexte français, on parle très peu de la question de la construction de prisons par le système colonial français, hein, que ce soit en Afrique, dans ce qui s'appelait alors l'Indochine, la question des bagnes coloniaux, hein, de ce qui a été fait en Guyane, en Kanaky. Donc toutes ces questions-là, à mon sens, doivent être davantage pensées. Et puis il y a la question de l'esclavage, des formes de continuité qu'il y a eu entre l'esclavage et l'institution carcérale.
Merci beaucoup pour ces éclairages. On arrive à la fin de l'interview et effectivement, traditionnellement, je propose aux invités de choisir une ou deux questions dans une liste que je leur envoie. Et donc, vous avez choisi la question, le livre que vous aimeriez relire pour la première fois, le découvrir à nouveau.
Alors, je dirais que ce n'est pas un seul livre, mais c'est toute une œuvre, l'œuvre d'Albertine Sarrazin. Je suis encore émue de penser... À ma rencontre avec Albertine Sarrazin. J'imagine qu'il y a toujours ça dans les rencontres de certains textes, cette impression de rencontrer un auteur ou une autrice qui nous parle, hein, comme si on était en tête à tête. Et j'ai toujours cette impression, hein, malgré les années qui passent, que quel que soit le livre d'Albertine Sarrazin, quand je l'ouvre, elle me parle un petit peu à moi et je ne m'en lasse pas.
Pour les personnes qui ne sauraient pas ce que fait Albertine Sarrazin, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu?
Oui. Albertine Sarrazin, elle a écrit pour l'essentiel dans les années 50-60. Elle est morte extrêmement jeune, elle est morte en 67. Mais elle a été découverte assez vite, découverte entre guillemets par l'éditeur Pauvert, qui l'a très vite édité. Et c'est un mélange, ses œuvres, à la fois de ce qu'elle a pu écrire comme roman, et donc parmi les plus connus, il y a l'Astragale, La Cavale, et c'est des romans qui sont en grande partie autobiographiques. Et puis, il y a des journaux, des écrits de prison, parce que elle a passé une bonne partie de sa vie en prison. Donc, c'était une femme qui a eu une vie socialement très, très, très pauvre, faite de multiples enfermements dès l'adolescence. Elle a fait une rencontre amoureuse qui est donc avec Julien, et Julien s'est retrouvé incarcéré aussi très régulièrement. Donc ils ont fait beaucoup d'allers-retours entre la prison. Elle s'est évadée à un moment donné, donc en se cassant l'os du pied, donc l'astragale. Et donc une partie de ses écrits de prison, et notamment donc les mots qu'elle a envoyés à Julien, mais aussi les mots qui s'échangeaient, son journal qu'elle tenait en prison, ont pu être publiés. Et donc on a à la fois une écriture romanesque et très inspirée de sa propre vie, des récits de ses compagnes d'incarcération, et elle rend très bien compte du vécu des femmes qui sont incarcérées, qui sont judiciarisées. Et puis il y a cet amour, il y a ces lettres qui sont échangées et qui échappent à la censure, et donc on a un aperçu de ces résistances, de ces brèches qui s'ouvrent, et donc de ces deux êtres qui s'aiment à la folie, qui se le disent et qui vivent cet amour empêchés par les murs, empêchés par les circonstances de la vie, la pauvreté, la dureté des conditions sociales, donc dans cette France de l'après-guerre.
Bon, merci beaucoup, Gwenola Ricordo, c'est parfait. Merci beaucoup vraiment de nous avoir accordé autant de temps pour répondre à nos questions sur Activist. C'était un entretien passionnant. Donc on peut vous retrouver principalement Crime et peine, penser l'abolitionnisme pénal, et pour elles toutes, Femmes contre la prison. De toute façon, toutes les références seront indiquées. Et voilà pour cet épisode d'Activist. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur tutoconquérirlemonde@gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bodoc et moi-même, Esther Meunier, alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreons respectifs, dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.